Alors bonjour à chacun, et puis la continuation du périple de l'Exode. J'ai besoin de récapituler parce que je n'étais pas dans cette église dimanche passé, et puis nous étions à Meignier pour tout vous dire. Mais pour resituer dans le contexte, nous voyons ce peuple esclavage dans le pays d'Égypte, appelé à la liberté par Dieu, avec Dieu, avec les moyens de Dieu, de l'Éternel Tout-Puissant. Le peuple est maintenant sorti d'Égypte, et puis se retrouve face à la mer. C'est l'impasse. Pourquoi tu nous as emmenés mourir dans le désert? Est-ce qu'il n'y avait pas des cercueils et des tombeaux en Égypte pour y mourir tranquille? Au moins là-bas, en esclavage, on était bien. Maintenant, on va devoir mourir devant la mer. Et la mer s'ouvre, le peuple traverse, sous la puissance de Dieu, tout ce peuple qui, finalement, dans ce passage, est en train de créer son histoire sans rien faire, puisque le peuple ne fait que marcher à sec, mais à la suite de Dieu. Et puis de l'autre côté de la mer s'est recouverte, les cadavres de l'armée égyptienne témoignent qu'il s'est passé quelque chose dans cette mer plate, et puis le peuple, sous la conduite de Moïse, va entonner un cantique. C'est le premier psaume de louange et de reconnaissance que nous avons dans la Bible, mis à part la louange qui parle d'elle-même par la création, mais explicite par la forme d'un psaume. C'est la première fois que ça arrive, c'est Exode chapitre 15. Je lis, et ensuite nous parlerons un petit peu de ce que veut dire ce chapitre 15 pour nous. Alors, Exode chapitre 15. Alors Moïse et l'Israélite chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent « Je chanterai à l'Éternel car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, l'objet de mes cantiques. Il est devenu mon salut. Il est mon Dieu. Je veux lui rendre hommage. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un guerrier. L'Éternel est son nom. Il a précipité dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses équipages d'élite ont été submergés par la mer des joncs. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus dans les profondeurs comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, est magnifiée par ta vigueur. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi par la grandeur de ta majesté. Tu renverses ceux qui se dressent contre toi. Tu déchaînes l'ardeur de ta colère. Elle les dévore comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une masse. Les flots se sont durcis au cœur de la mer. L'ennemi disait, « Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Je m'en répéterai, je tirerai l'épée. Ma main s'en emparera. » Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a recouverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans les eaux puissantes. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable et digne de louange, opérant des miracles? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta bienveillance, tu as conduit ce peuple que tu as racheté. Par ta puissance, tu le diriges vers ta demeure sainte. Les peuples l'ont appris et ils tremblent. Les douleurs saisissent les habitants de la Philistie et les commandants d'Édom s'épouvantent. Un frémissement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan défaillent. La terreur et la peur tomberont sur eux. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre. Jusqu'à ce que ton peuple, ô Éternel, ait passé. Jusqu'à ce qu'il ait passé le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les implanteras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta résidence, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont établi. L'Éternel règnera éternellement et à toujours, car les chevaux du Pharaon, avec ses chars et ses cavaliers, sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les Israélites ont marché à pied sec au milieu de la mer. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main le tambourin, et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et des danses. Myriam leur répondait : Chantez à l'Éternel, car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. Jusqu'ici, la lecture de ce psaume, nous continuerons un petit peu après. Absolument magnifique, ce psaume de victoire, de réussite, de cohésion aussi, parce que quelques jours avant, c'était l'échec assuré. Et puis là, non seulement ils sont tous sains et saufs, mais en plus, l'ennemi n'existe plus. Et il y a une barrière physique qui sépare avec le pays des ennemis. Mais enfin, les méchants avec leurs chars ont été noyés. Absolument fabuleux. Juste avant de reprendre quelques éléments que je veux souligner avec vous dans ce psaume, je veux donner un commentaire sur le fait que ce psaume de conquérant, de victoire, il a des allures patriotes, voire patriotiques ou tistes, qu'il faut savoir lire aussi. On n'a pas un Dieu qui se réjouit de la victoire d'une nation sur une autre. Si je vous, c'est pas que Dieu en a contre les Égyptiens, c'est contre ce que représentent aussi les Égyptiens, c'est-à-dire une opposition farouche au Créateur, on l'a vu, avec une obstination, j'allais dire incroyable, malheureusement très humaine, et c'est bien de ce principe-là que Dieu met en opposition avec son peuple qui lui appartient. C'est un petit peu comme, si on voulait comparer, la différence qu'on peut faire entre les Allemands et les nazis. Là, on n'en a pas contre les Égyptiens, on en a contre ce peuple qui défie Dieu, qui a tenu dans l'esclavage le peuple de Dieu et qui s'est moqué de Dieu jusqu'au bout, qui s'est moqué de Dieu dans tout son système de rébellion, de défiance au Créateur. Et c'est bien de ça dont il est question. Ce n'est pas un patriotisme qui nous gêne un petit peu, où on dirait, ouais, mais quand même, est-ce que Dieu n'aimerait pas tout le monde et tous les hommes ? Je rajoute à ce moment-là que certains Égyptiens ont reconnu Dieu et ont fait partie du peuple délivré. Voilà. Il faut savoir quand ça commence. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de leur date de mariage ? Alors là, il y en a une, ouais, mais je ne suis pas marié. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de leur date de naissance ? Oui, plus dur de se rappeler de la date de sa conception. Je reviens pour ceux qui sont mariés. Rappelez-vous de la date de votre mariage. Oui, mais est-ce que vous vous rappelez du moment, de la date, de ce premier regard par lequel, ce premier regard amoureux et réciproque par lequel tout a commencé ? C'est déjà un petit peu plus difficile à situer. Ce n'est pas évident de formaliser un commencement, de savoir à partir de quand ça démarre. Parce que soit la chose elle n'est pas encore arrivée, soit elle est déjà passée et du coup, on ne sait plus trop quand est-ce qu'elle a vraiment commencé. On a coutume de fêter le 14 juillet en mémoire du 14 juillet 1789. Mais j'ai compris que le 14 juillet 1789 a été défini comme date de début de la République, à peu près un siècle après la Révolution, sur des parlementations, et il y a beaucoup d'historiens qui critiquent beaucoup cette date et qui critiquent beaucoup le fait de la prise de la Bastille. Voilà. C'est juste pour dire que quand on y est, c'est pas évident de savoir que c'est le début. Un petit commentaire encore sur l'exemple que je viens de prendre. C'est la date qu'on a choisie pour fêter la République, mais la France, les Français existaient déjà depuis la Gaule, et puis c'était encore plus dur de savoir quand est-ce que ça a démarré. Et puis c'est pas évident de savoir que c'est le commencement, parce que on sait pas tout de suite que c'est le commencement, parce qu'on sait pas tout de suite encore si ça va être une réussite ou non. On ne sait pas s'il faut le fêter ou si c'est juste un essai, puis on verra après. Là, dans notre histoire, c'est très différent. Déjà parce que le peuple, peut-être qu'il ressemble un peu au peuple français de la Révolution, mais la grande différence, c'est que Dieu est là. Et que c'est Dieu qui organise un miracle, déjà, un miracle, pas un événement, c'est pas une balade, cette traversée de la mer Rouge. C'est un miracle. Ce miracle est annoncé, et puis il est organisé par Dieu, puis Dieu est présent dans tout ce moment-là. Et c'est lui qui va susciter, dire, voilà, maintenant, nous allons chanter, nous allons simplement louer pour définir ce qui vient de se passer. Et c'est ce que nous voyons dans ce psaume. Alors, c'est bien sûr Moïse qui parle, mais il comprend bien, sous l'inspiration de Dieu, que ce n'est pas juste un événement comme ça, qu'il y a quelque chose de fondateur, qu'il y a un commencement. Dieu crée son peuple dans le creuset de cette mer Rouge. Suite à la libération, maintenant, il y a le démarrage de la vie avec Dieu qui se fait par cette entrée par la mer Rouge. Je lis le texte. Je lis le texte ici. Donc je relis cette partie, mais avec quelques commentaires. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Là, on voit, on se rappelle des faits, ce qu'on vient de vivre, c'est un témoignage, c'est quelque chose de vrai, de véridique. Et il y a la reconnaissance, je reconnais ce qui s'est passé, et l'émerveillement de ce qui vient de se produire, qui est complètement fou. Nous, on est vivants, et ceux qui étaient plus forts que nous sont morts, et nous, eh ben, on est là, libres et vivants. Pour arriver à « Il est mon Dieu, je le célébrerai, il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai ». Cette célébration, c'est le besoin de dire « Voilà, maintenant, j'en parle, maintenant, je le célèbre, c'est « Je marque l'événement, je marque quelque chose d'exceptionnel ». Et puis, il est le Dieu de mon Père, oui, je le savais déjà, mais maintenant je l'ai vécu. Et je peux, moi, à mon tour, parce que c'est le Dieu de mon Père, je peux, à mon tour, élever ce Dieu. Ma vie sert de témoignage au Dieu de mon Père, oui, et puis à mon Dieu, parce que je l'ai vécu aujourd'hui. L'Éternel est son nom. L'Éternel, je suis celui qui suis. Yahvé, YHWH, je suis celui qui suis éternellement, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Je suis l'Éternel. Ensuite, toute une série de descriptions des fêtes, la compilation des faits de guerre, hein, jusqu'au verset 9. Il a écrasé l'ennemi, ta grandeur, tu renverses tes adversaires. C'est important de savoir ce qui s'est passé, d'archiver, de sauvegarder, d'avoir cette mémoire. Et encore une fois, il ne faut pas retenir le fait historique patriote, mais le fait spirituel de pourquoi il y a eu cette victoire, et contre qui elle était finalement, cette victoire. Au verset 9, l'ennemi disait « Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai, ma vengeance sera terrible, je tirerai l'épée ». Plein de projets humains. Et puis, basé sur la performance, de la réussite, et puis d'une façon indissociable, la vengeance, la conquête, parce que si on veut exister, c'est en écrasant l'autre. Ça, on le sait, dans toutes les entreprises, ça n'existe pas de dire « Oh, moi, je veux juste maintenir un niveau ». Malheureusement, l'homme est fait que, ainsi que s'il veut survivre, c'est forcément au détriment de l'autre. Mais la réponse à ça, tu as soufflé de ton haleine. Alors je me suis dit, mais de ton haleine, c'est un peu bizarre comme manière de dire. Ben oui, c'est même pas un souffle puissant par lequel Dieu a tout écrasé. C'est l'haleine, une respiration normale, vous voyez, le... Et puis ça suffit pour anéantir tous les efforts de vengeance des hommes. C'est une différence flagrante. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi, magnifique en sainteté ? Sainteté, parfait, forcément un Dieu qui se distingue, qui n'est pas comme les autres, et puis il y a ce risque de la comparaison. Mais qui est comme toi ? Comparons un petit peu. Quels sont les autres candidats au poste de Dieu ? Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi magnifique en sainteté ? Et là, je me rappelle ce message d'il y a trois semaines sur 2 Corinthiens 2. Une odeur, le triomphe, une odeur de vie pour certains, une odeur de mort pour d'autres. Quand on se risque à la comparaison devant Dieu, c'est soit pour le reconnaître Dieu, et là, c'est magistral, c'est la vie, soit on prend le risque dans la comparaison à Dieu, eh ben, d'être échec devant Dieu, d'être anéanti par Dieu. Et là, c'est bien ce qui se passe. Pour certains, c'est la victoire, pour d'autres, c'est la mort devant cette comparaison. Et on est forcé de la faire, cette comparaison. Mais à nous d'accepter de se mettre du bon côté. Digne de louange. On reviendra un petit peu plus tard sur le mot digne de louange. Ça, pour chacun, ça nous fait penser à ces paroles d'Apocalypse. Il est enfin reconnu, lui seul, comme digne. Ben oui, il s'est donné et lui est digne. Digne de louange, opérant des prodiges. Il agit, il est tout puissant. Ce que je souligne avec émerveillement, il est digne de louange. C'est-à-dire que ce n'est pas une place de Dieu qu'il s'est donnée lui, tout seul. Alors bien sûr, il est le Créateur, et il n'y a que lui qui peut être digne de louange. Mais en plus de ça, il est le Créateur, il vient au milieu de son peuple. C'est lui qui combat, c'est lui qui a combattu, c'est lui qui a tout fait. Et dans le fait qu'il est le seul digne, c'est lui qui prend tout le risque de cette bataille. Il n'y a que lui qui peut être reconnu comme digne. Et c'est même plus que ça. Toute créature ne reconnaît que Dieu comme digne. Je saute un petit peu, on en reparlera après. La victoire ultime, plus que Dieu devant les Égyptiens et le péché des Égyptiens, la victoire ultime, c'est Christ devant le péché, devant la puissance du péché. Et Christ, c'est lui qui a combattu, il s'est donné lui-même comme un agneau. Et finalement, il n'y a que lui qui peut être reconnu comme digne par toutes les créatures. C'est-à-dire toutes les créatures, tous les hommes et les femmes, ceux qui aujourd'hui l'acceptent, bien entendu, mais ceux qui aujourd'hui le contestent, avec un petit peu de comparaison un peu plus nette, tout le monde devra reconnaître comme seul digne Christ qui a combattu pour nous, qui a vaincu le péché, qui est mort et qui est ressuscité. Même plus que ça, même Satan et les démons ne reconnaissent que Christ comme le seul digne. une odeur de vie pour certains, une odeur de mort pour d'autres. Et là, on arrive sur le centre qui, à mon avis, résume tout ce chapitre. Même la partie d'après ce qu'on a lu, qu'on va lire tout à l'heure. Verset 13. « Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers ta demeure, vers la demeure de ta sainteté. Par ta miséricorde. » Miséricorde, vous vous rappelez ce que ça veut dire ? Une corde qui vibre à la misère des hommes. C'est-à-dire un Dieu qui est ému devant la misère des hommes, de nous. C'est-à-dire, c'est pas, c'est pas de la pitié. C'est dommage. Il y a une émotion qui fait que Dieu transforme cette pitié en compassion. Par ta miséricorde, tu as conduit et tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Là, nous avons la suite. C'est pas juste délivrer des Égyptiens. Et puis voilà, maintenant, j'ai fait le boulot, débrouillez-vous. Il n'y a plus d'ennemis, vous êtes dans le désert, débrouillez-vous. Il y en a qui vivent en nomades dans le désert, à vous d'apprendre. Non, il y a cet acte de passage de la mer Rouge par lequel personne d'autre que Dieu pouvait passer par là, avec le peuple en nombre qu'il avait. Et puis dans la suite, il y a cet accompagnement, jour après jour, tous les jours. On va l'examiner dans les dimanches qui viennent. Mais c'est important de voir dans ce moment du psaume de louange, par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de sa sainteté. Si nous voulions prendre l'image, c'est la conversion. Et puis tout ce processus de sanctification, de construction, d'édification qui fait que jour après jour, le Seigneur est là, nous apprend, nous montre, nous conduit à la patience de nous laisser nous tromper parce qu'il nous aime, mais il est toujours là pour nous relever puis nous montrer, nous souligner. Regarde, je suis là. Regarde, je t'apprends. Regarde, prends courage. Et c'est vraiment l'intention de ce passage. Ensuite, toute la suite, la réputation de la puissance de Dieu qui fait peur à tout l'entourage. Ils tremblent. Les Philistins, les peuples de Moab, de Canaan, bien sûr. Tout le monde tremble, a peur, tombe en défaillance. Ils deviennent muets, même ceux qui ont toujours quelque chose à dire et à contester. Deviennent muets devant la puissance de Dieu. Et encore, là encore, c'est pas pour faire du patriotisme simple ou simpliste. C'est Dieu qui s'oppose au péché de ces nations qui avaient des pratiques infâmes et qui sont finalement réduits à la terreur devant la puissance et la sainteté de Dieu. Pour arriver à cette phrase qui nous suit depuis le début de Genèse, qui nous suit depuis l'intervention de Dieu devant à Abraham, Genèse 15, la promesse, le début, le peuple que tu as acquis. Le peuple que tu as acquis. Et qui nous suit jusqu'au bout de l'Apocalypse. Vous n'étiez rien, vous êtes maintenant un peuple acquis, un sacerdoce royal. Enfin, toute cette promesse. Tu les amèneras, tu les établiras sur la montagne de ton héritage. Voilà, le projet, la promesse, l'objectif est là. C'est pas juste un sauvetage. Oh, quand même, une nation qui galérait sans moi, puis je vais les aider parce que j'ai pitié. Il y a ce projet de libération qui va jusqu'au bout, qui devient parfait. Et ensuite, ce cantique est repris par le peuple entier, les hommes, les femmes, le peuple entier va reprendre ce cantique. Et Dieu nous dit là, Moïse sous la conduite de Dieu nous dit, voilà, c'est là le début, c'est là le commencement. Dieu existait avant, le peuple existait avant, mais voilà. Avant c'était la promesse qui était faite à Abraham, avant c'était vos ancêtres, c'était quelques personnes. Là, tout le peuple est passé dans la mer. Et à vous de vous approprier cette promesse à chacun. Et tout le monde chante, c'est génial. Dieu nous a délivrés et il nous accompagne. Il faut le reconnaître, il faut le revoir, il faut... le mot reconnaître, il faut réfléchir ce que ça veut dire, c'est... Oui, je reconnais ce qui s'est passé. Oui, j'accepte. Et puis, la suite, c'est que Dieu est le même d'âge en âge. Donc, souvenez-vous de ce moment. Souvenez-vous, quand vous aurez un petit peu oublié, ben faites l'effort de ne pas l'oublier. Souvenez-vous de ça. Bien entendu, on a besoin du souvenir parce que les obstacles arrivent. Les obstacles, ben c'est les difficultés de la vie. C'est ce qui n'est pas simple, c'est ce qui, on avait prévu que ça roule bien, que le désert, ben voilà, on avance, le pays promis est pas loin, et puis on y va. Et puis c'est pas si simple, parce que il y a de l'usure, il y a de la fatigue, il y a des doutes. Je parle d'eux, mais je parle de nous aussi, surtout. Ce qui fait que cette belle promesse qui paraissait évidente à ce moment-là, elle est pas si simple. Les difficultés, les oppositions. Et puis là-dessus, va se greffer un sentiment qui est terriblement humain, c'est l'amnésie. L'amnésie de la promesse de Dieu. Dans cette première partie, qui nous rappelait le terme de l'alliance, qui nous disait, voilà, je suis votre Dieu, je vous aime, je veux prendre soin de vous, je vais vous former, je vais vous délivrer, faire sortir d'Égypte, voilà, traverser de la mer Rouge. Il y a cette relation qui devient intense, qui est formalisée par ce psaume. C'est un petit peu, on a compris qu'il y avait cette relation. On est amoureux, ben marions-nous, on formalise, c'est génial. Et puis l'amnésie, c'est On est mariés, alors soyons amoureux. Vous voyez ce qui va avec, ce qui est indissociable, mais qui nous rappelle que on n'est pas complètement parfait. C'est pas parce que on s'est fait des magnifiques promesses que le terme de l'alliance est quelque chose, le terme de l'alliance et du mariage est quelque chose de fabuleux, que il n'y a plus rien à démontrer. Alors sur le moment, on est amoureux, génial, marions-nous. Et puis le lendemain, on est marié, ben génial, soyons amoureux, rappelons-nous ce que ça veut dire. Et la suite du texte nous parle de ça. On est dans le même chapitre, et je continue la lecture. Voilà, le même chapitre, et je continue la lecture au verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Donc la musique s'arrête, on range les tambourins, on se remet en route pour 3 jours. Il partit de la mer Rouge, reprirent la direction du désert, de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce que elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Donc on le savait, ça s'appelait Mara parce que l'eau était amère. C'est comme ça. Le peuple murmura, c'est pas un murmure doux et léger, hein, murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel. Alors, l'Éternel a réussi à traverser la mer Rouge, il n'était pas obligé. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce que ça s'arrête là ? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple les lois et les ordonnances. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à tes yeux, si tu prêtes l'oreille à tes commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Dans ce même chapitre, il y a ce premier psaume fabuleux. Regardez, c'est là le début, regardez le miracle. Enfin, ils sont encore dans l'émerveillement. Et ben, 3 jours après, ils murmurent contre Moïse, contre Dieu. Et Moïse doit crier à l'Éternel. Cette source d'eau amère, ben oui, ça aurait été plus simple que la première source, ce soit une vraie source de bonne eau. Mais en même temps, on le sait que c'est de l'eau amère. Qui d'entre vous, quand il se balade quelque part, qu'il a une énorme soif, va boire n'importe où sans jamais se méfier? Enfin, il me semble qu'on est habitué sur la terre, on sait que c'est pas gagné, que tout est parfaitement comestible et bon pour la santé. Il y a des choses qui sont excellentes, puis des choses qui sont pourries. On le sait, et ils le savaient déjà, qu'ils n'étaient plus dans le jardin d'Éden, que la pourriture était entrée dans ce monde, qu'il y avait quelque chose de tordu. Et nous-mêmes, nous sommes spectateurs, dans toutes les journées que nous vivons, spectateurs aussi bien des merveilles de la création parfaite, enfin de la création, puis de tout ce que Dieu fait de parfait, et en même temps, témoins désolés de tout ce qui est tordu, de tout ce qui est vicié, de tout ce qui est rendu amer, non potable, corrompu. On le voit tout le temps, dans une source d'eau, mais aussi dans les relations, dans les personnes à qui nous travaillons, qui nous dirigent. On sait qu'il y a à la fois le potentiel merveilleux, puis à la fois le potentiel désastreux. Et là, c'est simplement une source qui est réputée amère. Rien de plus normal, en gros. On le sait. Et puis, malgré le souvenir de 3 jours, l'amnésie est déjà là. Mais alors, qu'est-ce qui se passe là? Pas de solution. On vient de traverser une mer rouge, quoi. L'échec, quoi. Rien à boire, c'est amer, c'est terrible. On va se rebeller, on va murmurer. Et je nous invite à pas critiquer ce peuple, mais à servir de cet exemple d'amnésie de 3 jours pour examiner notre amnésie, des fois, qui a quelques minutes. Et je le constate, je ne critique personne, je le constate avec désolation dans ma vie, de voir à quel point les choses futiles et passagères prennent une importance supérieure aux choses vraies, sûres, stables, éternelles, dont Dieu me parle et dont Dieu m'a donné déjà des preuves. Et j'investis souvent plus sur des choses non certaines, sur lesquelles je n'ai pas de preuves et qui sont en tout cas passagères. Ben voilà, ce psaume, il est là pour nous dire, non, rappelez-vous, là on l'a écrit, vous l'avez vécu, on l'écrit, on le chante, et si on l'oublie, ben on le relit. On s'en rappelle. Un petit mot sur ce qui s'est passé par la suite. Dieu indiqua à Moïse un bois qu'il jeta dans l'eau, et sans faire d'allégorie élastique, j'arrive pas à ne pas penser à cette trajectoire que Dieu fait pour nous rejoindre dans notre amertume et dans notre échec, pour nous sauver. Bien sûr, je veux parler de Jésus-Christ. Entre ce moment et puis les évangiles, je me rappelle aussi des fils des prophètes qui perdent un fer de hache. Et puis, j'explique pas plus, mais vous irez lire, qui perdent un fer de hache et puis qui sont désemparés. Et puis là, Dieu montre à Élisée de prendre un bois, de le jeter exactement comme il fait là dans la source. Et puis il y a ce bois qui tombe et puis il sauve ce fer de hache. Bon, c'est la même situation visuelle, c'est une anecdote, mais la vraie explication, elle est là. Cette trajectoire de ce morceau de bois qui vient pour enlever l'amertume nous parle du plan de Dieu qui vient non pas nous supprimer toutes les difficultés et les amertumes, mais nous délivrer des difficultés et des amertumes par son soutien où il vient lui-même vivre les choses à notre place. J'aimerais lire à cet endroit-là, en parlant de bois qui jette dans l'eau et l'eau devient douce. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il a pris sur lui nos meurtrissures. Il est venu, lui, sur le bois infâme, il est dit, pour nous délivrer. C'est une petite anecdote pour les gens sur place. Enfin, je veux dire anecdote. Le mot bois, je me réjouis de le lire dans ce sens-là. Sur place, je ne sais pas ce qu'ils ont compris avec le bois, mais en tout cas, ils ont compris qu'il y aurait de l'amertume, il y aurait des difficultés, il y aurait des doutes, mais que Dieu serait là. Et puis que, franchement, 3 jours d'amnésie, c'est pas très juste par rapport à ce qui s'est passé. Il y a beaucoup moins de commentaires et beaucoup moins de murmures négatifs dans la simple mention du verset 27. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau, 70 palmiers, et ils campèrent là, près de l'eau. Enfin, enfin, voilà, ça c'est génial. Puis ça passe normal, quoi. C'est normal que ce soit comme ça. Ben non, c'est pas normal, c'est une grâce de Dieu. C'est une bénédiction exceptionnelle de Dieu que l'ingratitude de l'homme a tendance à digérer comme normal. Mais non, c'est pas normal. C'est une grâce exceptionnelle de Dieu, mais que nous voyons tous les jours. Ce soleil qui brille, c'est juste le témoignage de la grâce exceptionnelle de Dieu. Et par le soleil qui brille, il ne faut pas en rester là puis adorer le soleil. Il faut s'en souvenir pour se rappeler que la vraie lumière, c'est Dieu, que la vraie lumière, c'est Christ, et que c'est lui qui nous fait don de cette grâce exceptionnelle. Juste une petite commentaire. Ils arrivent là, c'est pas un palais doré avec tout en or, des toilettes en or, et puis du marbre et de la moquette toute douce. Ça reste du camping. Ils sont là, ils campèrent là, près de l'eau, du camping. Mais avec tout ce dont ils ont besoin. Une abondance de vie énorme. Et en parlant de camping, moi je veux juste rappeler ce verset. On va retrouver vite, donc. De Corinthiens chapitre 5, nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. On n'a pas à rechercher un palais en marbre et en moquette et en or ici-bas pour être enfin heureux, puis enfin avoir l'assurance que Dieu prend soin de nous. Là, c'est du camping, mais ils ont tout ce dont ils ont besoin. Ils ont une démonstration d'une abondance de vie. Voilà, cherchons aussi à construire dans cet édifice éternel plutôt qu'à rechercher du marbre qui ne sera pas éternel. Bon, tout ça pour nous dire que ce psaume est là pour nous dire qu'il y a un commencement. C'est là. Que la promesse de Dieu, elle est vraie, mais qu'on l'oublie. Alors écrivons-la. Soulignons dans nos Bibles. Marquons une date pour un événement particulier. Aussi un moment particulier qui concerne un doute, une crainte. Un moment où c'est dur, où il y a de l'injustice, ou de l'incompréhension, où on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et puis aussi des moments où Dieu a répondu, où Dieu nous donne avec fidélité la paix, de quoi se nourrir. Et marquons toutes ces choses. Nous n'avons pas à faire un score en disant oh, « Regarde, j'ai une vie parfaite, donc Dieu est bon ». Non. Mais regarde, la vie n'a pas été simple, mais il y a eu des belles choses. Mais Dieu a été là tout le temps, fidèle. Ça a été dur, il y a eu des doutes, mais Dieu était présent. Dieu vient pas nous améliorer un quotidien qui est trop dur parce que la vie c'est dur. Dieu vient nous sauver, il vient nous délivrer. Il le sait que la vie est dure, elle est plus dure que ce qu'on peut l'imaginer. Elle est dure plus que la dureté des Égyptiens. Elle est dure plus que la dureté des nazis, si on veut prendre une comparaison. Elle est dure, aussi dure que Satan peut être dur. Elle est dure comme le péché la rend dure, parce que le péché apporte cette pourriture dans la vie. Et elle est dure parce que nous l'abritons et que nous l'entretenons. Donc elle est dure parce qu'elle est proche, parce qu'elle est là. Et Dieu le sait. Et c'est bien de ça qu'il vient nous délivrer. Et dans ce texte, il n'y a pas le passage et puis ça s'arrête là. Il y a cet accompagnement du quotidien, du jour. Ça va durer un petit peu longtemps, par la faute des hommes. Enfin, ce qui va durer longtemps, c'est la marche dans le désert. Mais la marche avec Dieu, désert ou oasis, elle est éternelle. Parce que Dieu ne s'en ira jamais. Mais ce que Dieu nous dit dans ce chapitre, c'est que ce n'est pas là pour t'aider à passer un passage compliqué, difficile, sans issue. Il est là tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et la fin du monde, c'est qu'il sera encore là, puisque ce sera le paradis. Il est là tous les jours. Et encore une fois, Dieu n'est pas là pour nous améliorer une vie dure. Il est là pour nous sauver, nous arracher cette mort, puis nous rendre à la vie. Et l'issue de ça, c'est de le glorifier et de le louer. Pour terminer, j'aimerais lire quelques versets qui nous parlent de ça. Il y en a énormément à lire qui nous parlent de ça. Déjà, beaucoup de psaumes s'inspirent de ce Exode 15. Et j'aimerais lire rapidement, enfin, c'est-à-dire une sélection de quelques versets dans Ésaïe 51 qui nous rappellent au plus profond de la misère et de l'horreur de l'exil en Babylone. Rappelle-toi, réveille-toi. Donc Ésaïe 51, je vais lire verset 9 et puis quelques versets à la suite. Rappelle-toi, réveille-toi. N'est-ce pas toi qui abattis l'Égypte et qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui as mis la mer à sec, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ainsi ceux que l'Éternel a libérés retourneront, ils arriveront d'Ancion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. Au verset 13, l'amnésie. Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre? Et tu serais dans une frayeur continuelle, tout le jour, devant la fureur de l'oppresseur? Les rappels au verset 15, je suis l'Éternel ton Dieu. Et puis dans la suite, tu es mon peuple, qui nous fait référence à tu t'es acquis un peuple. Ce psaume revient dans ce passage d'Ésaïe qui nous dit rappelle-toi d'où tu viens, et puis rappelle-toi que le Dieu qui t'a délivré est toujours le même, il t'accompagne et il a un projet. Et le projet ne s'arrête pas à la délivrance d'Égypte, il ne s'arrête pas à la délivrance de l'exil en Babylone, il ne s'arrête pas à nos problèmes, il a une destination éternelle pour la gloire éternelle de Dieu. Ce que nous faisons au moment de la Sainte Cène, c'est pas un rite qui fait un rassemblement social, culturel et qui fait que on est ensemble. C'est on se rappelle d'où nous venons, ce que Dieu a fait pour nous. Il s'est fait péché pour nous, il est mort, ressuscité, et il nous ouvre, il nous dit, il nous libère complètement et il nous accompagne jour après jour. Si je relis dans le récit de la Sainte Cène dans les Corinthiens, et après avoir rendu grâce, il rompit le pain et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi, rappelez-vous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous en mangerez de ce pain et que vous boirez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. On fête ce qui s'est passé, on se rappelle d'où nous venons, on fête ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire je suis aujourd'hui libre, et puis on se rappelle de notre destination. Nous nous retrouverons face à face avec Dieu, justifiés parce que c'est lui qui nous justifie. Et ayons le réflexe de revenir sur ces promesses à une fréquence plus élevée que notre amnésie. Notre amnésie, elle est là. L'oubli, l'accoutumance, ah ben c'est comme ça, ben j'ai des trucs plus importants. On le sait, c'est normal. Enfin, c'est normal, c'est nous, c'est les hommes. On se débrouille avec ça. Mais ayons le réflexe de revenir sur ces promesses, sur ces faits, avec une fréquence plus élevée que ce qu'on pourrait l'oublier. Et puis, j'aimerais juste... Alors là, il faut que je choisisse quel verset j'aimerais lire sur la fin. Parce qu'il y en a beaucoup. Je vous ai dit qu'on lirait dans Apocalypse. On va lire dans Apocalypse. Le digne. Seul Dieu est reconnu digne. C'est Apocalypse 5, le verset 9. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. La sélection, elle n'est pas sur le mérite. Elle n'est pas sur le mérite de ces Hébreux. Dans ce troupeau d'Hébreux, il y avait certainement quelques Égyptiens qui avaient reconnu que Dieu est le seul Dieu qui sauve. Et la trajectoire de Dieu qui vient nous sauver et nous arracher, nous libérer et nous accompagner jour après jour, à cause de son œuvre à la croix, seul lui est reconnu digne. Et ce cantique merveilleux, eh ben, ce cantique merveilleux que nous entendrons, il fait référence à ce cantique de Moïse sur les bords de la mer Rouge. Et c'est même marqué, je tourne quelques pages, dans Apocalypse, qui nous dit, chapitre 15, verset 3, il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Seigneur, qui ne craindrait, Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que ta justice a été manifestée. Tout est cohérent, parce que nous avons le même Dieu, hier, aujourd'hui, demain, d'âge en âge. C'est fait, rappelons-nous-en, parce que Dieu est le même, la même puissance, le même but, le même objectif, nous libérer, nous accompagner pour nous emmener dans sa félicité, dans son royaume éternel, avec un accompagnement qui est déjà valable aujourd'hui. Amen. Je prie. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, garde-moi. J'allais dire garde-moi de cette amnésie. Je sais qu'elle fait partie de moi et que tant que je suis ici, elle va m'engluer. Mais garde-moi de délaisser le rappel de ta promesse. Garde-moi de m'endormir dans cette amnésie. Mais donne-moi la reconnaissance, donne-moi la joie de revenir sur tes promesses plus souvent que j'oublierai tes promesses. Garde-moi de réfléchir à quel est ton intervention dans le but d'améliorer le confort de ma vie. Garde-moi de confondre libération avec confort. Mais donne-moi de te rechercher, d'avoir cette pensée spirituelle qui fait que je me réjouis de la vraie libération qui me libère du péché et de la mort, et que je peux goûter tous les jours dans la marche quotidienne avec toi. Merci pour ce psaume qui me le rappelle, merci parce que ce psaume est cohérent avec ton œuvre, l'apogée de le comble de ta gloire à la croix, et aide-moi à me réjouir en vérité du moment où tu reviendras, où cet état devant toi sera parfait, où il n'y aura plus d'oubli, plus d'amnésie, plus de manière de relativiser la manière d'être sauvé, mais d'être en face de toi et de te glorifier, de chanter tous ensemble ce cantique, toi seul es digne, parce que toi seul as vaincu le péché et la mort et nous a ressuscité avec toi. Seigneur Jésus, merci parce que nous pouvons vivre ces moments ensemble dans ce pèlerinage parfois compliqué, mais merci parce que tu es là. Amen.